La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
Bonjour, c'est la midinale, on est lundi 28 juin. Il est midi 22, 23, 24.
Mais par contre, on est le 29 juin.
Ah mince, ben, on est le 29 juin, dis donc, première nouvelle.
On aurait pu lui dire ça quand elle a dit on est le 28 juin avant de prendre l'antenne, mais...
C'est vrai qu'on aurait pu.
C'est pour m'humilier, c'est ça?
Bah ouais.
Bon.
Tu sais bien qu'on aime bien.
Ok. Donc je suis en compagnie de mes chers acolytes. Dubois.
Yes.
Oh. Et Steph.
Ouais. Hello.
Et je m'appelle Kat. Alors, nous sommes dans. Nous allons commencer par la première partie, la revue de presse. Et Steph, tu as reçu le CQFD du mois de juin.
Bah ouais, le 29 juin, il était temps que je commence à l'ouvrir. Et en fait, j'ai pas eu besoin de l'ouvrir parce que là, c'est l'article qui est tout à la fin.
Ok.
Et en fait, c'est un courrier, donc ça s'appelle Courrier d'une autre Amérique. Et c'est une lettre, c'est la deuxième lettre que cette personne envoie à CQFD. C'est une lettre de quelqu'un qui s'appelle John Marcotte et qui est un camionneur retraité. John Marcotte a milité au sein d'un courant marxiste humaniste influencé par un grand intellectuel qui s'appelle C.L.R. James. Et c'est son second courrier envoyé à CQFD. Et c'est ce courrier que je vais lire. Ça s'appelle « La race, la classe et le Covid-19 ». En 1848, alors que la classe ouvrière européenne faisait la révolution, la classe ouvrière américaine massacrait des Indiens, des Chinois et des Mexicains. C'était la ruée vers l'or de la Californie. Tuer des non-blancs pour s'enrichir, voilà ce qu'a toujours été l'American Dream. Vous noterez mon merveilleux accent américain. Derrière, il y a la Manifest Destiny, cette idée que la volonté divine dicte la domination d'une race blanche supérieure sur l'ensemble du continent nord-américain. Avec le Covid-19, nous sommes dans un schéma similaire, laisser mourir des non-blancs pour gagner de l'argent. À plusieurs reprises, le président Trump a refusé d'appliquer la loi de réquisition de 1950 pour obliger les entreprises à produire des équipements médicaux indispensables, comme des masques N95. Dans le même temps, les travailleurs hospitaliers se débattaient pour sauver des vies sans protection, dans le pays le plus riche du monde. Quand le 28 avril, Trump a fini par invoquer cette loi, ça a été pour obliger les abattoirs à rouvrir. Auparavant, 22 d'entre eux avaient fermé après s'être révélés d'importants clusters. Des milliers d'ouvriers étaient tombés malades et on comptait fin avril une vingtaine de morts. Les patrons du secteur, eux, faisaient la grimace à l'idée que les familles des travailleurs décédés puissent les poursuivre en justice pour manquement à la sécurité. Grâce au décret de Trump, ils sont à l'abri des poursuites et gagnent à nouveau de l'argent. Mais quid des employés désormais forcés d'aller au boulot la peur au ventre? Ils sont facilement interchangeables, pas de souci. Dans les années 80, le puissant syndicat des travailleurs des usines de conditionnement de viande a été brisé. Aujourd'hui, la main-d'œuvre est principalement composée de personnes de couleur et de réfugiés. Dans le sud, par exemple, les employés des usines de poulet sont en grande partie afro-américains et latinos. Par crainte de contracter la maladie, beaucoup avaient arrêté de se rendre au travail, ce qui avait contraint plusieurs entreprises à fermer. En ordonnant la réouverture, M. Trump affirme que ces vies noires et basanées sont sacrifiables. Business must go on. Il faut faire du profit, les bourses doivent grimper, et Trump être réélu en novembre. Dans ce pays qui s'est bâti sur l'esclavage des Africains et le vol des terres indigènes, la vie des personnes de couleur n'a jamais valu grand-chose. Le Covid-19 a également touché les Amérindiens, dont beaucoup souffraient de problèmes de santé préexistants et d'un faible accès aux soins. Dans le Dakota du Sud, les Sioux de Cheyenne River et les Sioux Oglala ont décidé d'organiser eux-mêmes la défense de leur communauté en installant des checkpoints sur les routes d'accès à leurs réserves. Comme l'explique Harold Frazier, représentant des Sioux de Cheyenne River, Lorsque les temps deviennent difficiles, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Refusant d'obéir au gouverneur du Dakota du Sud qui leur ordonnait de démanteler leur poste de contrôle, les Sioux ont invoqué le traité de Fort Laramie, 1868. Frazee a précisé que son peuple ne faisait que défendre son droit à la vie le plus fondamental, puisqu'il ne disposait que de 8 lits d'hôpital pour la réserve entière. Les Navajos, eux, connaissent un des taux de contamination parmi les plus élevés du pays. Plus de 40% des 170 000 habitants de leur territoire tribal semi-autonome, le plus grand des États-Unis, n'ont pas accès à l'eau courante, ce qui pose d'énormes problèmes, ne serait-ce que pour se laver les mains. Le 14 mai, la nation Navajo comptait quelque 4 000 cas de Covid-19 et plus de 170 morts. À Chicago, les Afro-Américains représentent 30% de la population, mais 72% des décès dus au Covid-19. Même chose à la Nouvelle-Orléans et dans bien d'autres endroits. Outre le racisme structurel qui complique l'accès aux soins et à une alimentation saine, les personnes de couleur sont plus nombreuses à travailler en première ligne, par exemple dans les transports. Elles n'ont pas le luxe de télétravailler et sont donc plus exposées. Ah, et comment s'en sortent mes copains travailleurs latinos sans papier de New York, l'épicentre du coronavirus aux États-Unis. L'épicentre de l'épicentre, ce sont les quartiers de Corona et d'Elmhurst, dans le Queens. Ce district est peuplé de nombreux travailleurs sans papier venus du Mexique, d'Amérique centrale et d'Équateur, dont de nombreux indigènes. C'est à ces invisibles qu'on doit le dynamisme de la ville. Dans les cuisines des restaurants, ils travaillent 100 heures par semaine, que la nourriture soit japonaise ou italienne, française ou thaïlandaise. Ce sont également eux qui s'occupent des livraisons. Ils sont les petites mains de la maçonnerie, l'aménagement paysager ou n'importe quel travail pénible et sous-payé. Que deviennent-ils maintenant que les restaurants sont fermés et que leurs emplois ont disparu? Ces gens-là n'existent pas aux yeux du gouvernement. Ils ne recevront ni indemnité, ni chômage, ni chèque Covid de 1 200 $, ni bon alimentaire. Comment se nourrissent-ils et payent-ils leur loyer? Des échos que j'en ai, ils survivent grâce à l'aide minimum fournie par les réseaux d'entraide, les églises, les groupes communautaires. Et puis, dans le bilan macabre du coronavirus, toutes les personnes mortes à domicile, dans des logements surpeuplés, n'ont pas été comptabilisées. Beaucoup n'ont pas de famille pour réclamer le corps et ont été enterrés dans des fosses communes sur l'île de Hart. Émigrer pour subvenir aux besoins de sa famille et finir incognito au milieu de l'East River. Triste destin. Pendant ce temps-là, l'administration suprémaciste blanche de Washington profite de la pandémie pour fermer les frontières. C'est le continuum d'une litanie d'horreurs commises en notre nom à la frontière mexicaine. Séparation des parents et des enfants, défilé de bambins sans avocat devant des juges, renvoi de demandeurs d'asile au Guatemala ou au Honduras au mépris des conventions internationales. Le 21 avril, M. Trump a déclaré une suspension temporaire de 60 jours de toute immigration. Le rêve jamais réalisé des suprémacistes blancs. On se doute bien que Stephen Miller, le conseiller principal de Trump en charge de l'Amérique blanche, cherche déjà un moyen d'utiliser l'épidémie pour rendre permanente cette ordonnance temporaire. Le Covid-19 met à nu les fissures, en fait des trous béants, du système de santé états-unien. Comme d'habitude, ce sont les pauvres, les noirs, les latinos, les indigènes qui souffrent le plus lorsque le capitalisme est malade. Ainsi, lorsque les voyous armés de Trump manifestent pour mettre fin au confinement dans certains États afin de libérer le business, on sait que ce sont les noirs et les immigrés qui mourront ensuite de façon disproportionnée. Comme toujours.
Oui. Ça me fait penser à une... J'ai regardé un discours inaugural du Collège de France de Didier Fassin, qui est un médecin anthropologue et qui a écrit « L'inégalité des vies ». Et il parle, c'est toute une réflexion sur l'espérance de vie, voilà. Donc il montre, tu sais, les conditions sociales, les choses, voilà, qui font que on vit moins longtemps, suivant. Mais il montre que aussi à même niveau social et d'éducation, en fait, les personnes racisées meurent plus jeunes que les autres. Et c'est assez hallucinant. Enfin, c'est hyper clair et c'est ça vaut le coup. C'est sur le site en accès libre, Collège de France. Voilà, ça dure une heure et c'est bon, c'est assez effroyable. Ça se termine sur d'ailleurs les morts en Méditerranée et le fait que comment dire, de fait, c'est pas, on met pas la même valeur à des vies humaines. C'est pas très gai, mais bien réel.
Dans le CQFD du mois de juin, il y a aussi donc le dossier s'appelle Déconfiner les luttes. Il y a pas mal d'articles sur autour des conditions de vie des plus pauvres en temps de Covid, mais il y a aussi un dossier sur les violences policières et notamment une interview avec Mathieu Rigouste.
Qui est bien.
Ouais. On rappelle qu'il est toujours temps de donner un peu d'argent pour financer le film de Mathieu Rigouste. Ça s'appelle Un seul héros, le peuple.
Donc, si tu participes au financement, après tu reçois un petit mail de remerciement de Mathieu Rigouste @laposte.net. Ça fait toujours plaisir.
Est-ce qu'on avait d'autres trucs dans cette revue de presse ?
Ouais, oui.
Je peux juste. Je suis désolée, je démonte tout ton truc. C'est pour signaler qu'il y a un. Parce qu'en fait, dans S'informer autrement, ça ira pas. C'est pour signaler qu'il y a le Manière de voir. Manière de voir, c'est un. Comment on dit quand ça sort tous les deux mois ?
Supplément.
Oui, mais qui sort tous les deux mois.
Bi-hebdomadaire.
Alors, c'est un supplément.
C'est pas toi qui es censé ça marcher.
Non, hebdomadaire, ça marche c'est pas. Semaine.
Donc
mensuel. Bimensuel.
Excuse-moi.
Ça, c'est. Faut pas compter sur moi pour ça.
Bah, manifestement, sur moi non plus. Donc, Manière de voir, le supplément du Monde diplomatique qui est bimensuel. Et celui de juin-juillet. Il y a toujours une thématique. Hein. Celui de juin-juillet, la thématique, c'est musique et politique. Et du coup, il y a des choses vraiment très, très intéressantes dedans sur la techno, sur la country music, sur la musique jamaïcaine, sur le rap. Et à noter qu'il y a un article, que c'est celui-là que j'ai lu en premier, vous allez comprendre vite pourquoi, un article écrit par Juliette Volclair, à qui on fait des bisous, qui s'appelle « Modeler la ville à travers les sons » et qui reprend le... En fait, c'est un... Enfin, Juliette Volclair, elle travaille beaucoup sur l'utilisation du son et des manipulations sonores. Elle a un livre qui s'appelle « Le son comme arme », par exemple, où elle va interroger comment on utilise le son pour faire la guerre. Et voilà, donc c'est. Et notamment, on a ces images de. C'est pas Platoon, à chaque fois je me plante. Le film avec. Le film sur la guerre du Vietnam ? Ouais, ok.
Ouais, je vois.
Tu vois lequel ?
Un film sur la guerre du Vietnam ? Il y en a plein, mais il y en a un ultra connu.
Ah oui ?
Oh, bah, il y en a plusieurs, quoi. Mais c'est pas grave. Très connu.
C'est un film. Apocalypse
Kubrick,
Now. Apocalypse Now. Voilà. Et en fait, dans ce film, on voit comment les hélicoptères bombardent, enfin, quand ils bombardent tout ça, ils bombardent des bombes, mais ils bombardent aussi de sons. Et ils utilisaient le son pour terrifier les gens. Dans ce livre-là, elle parle aussi comment on utilise le son pour briser les prisonniers dans les prisons irakiennes ou les prisons en Afghanistan. Voilà, donc c'est vraiment son sujet de recherche, enfin, les manipulations par le son. Et dans cet article-là, c'est un article qui s'appelle « Modeler la ville à travers les sons ». Elle raconte comment, depuis les années 70, il y a pléthore de nouveaux métiers qui débarquent dans l'industrie et dans les collectivités territoriales autour du son. Et notamment, comment est-ce que l'industrie automobile essaie de déposer des sons, fabriquer des sons qui, avec les moteurs électriques, les voitures ne font plus de bruit. Du coup, sous couvert de « attention, ce serait dangereux », ils vont développer un son particulier. Et par exemple, chez Audi, où tous les sons, chaque chose que tu fais dans ton habitacle de voiture, il y a un son qui va y correspondre. Elle parle je crois que c'est Uber, je crois, hein, ont doté les livreurs de scooters électriques, c'est pas Uber, c'est McDo, de scooters électriques qui font plus de bruit. Et du coup, c'était aussi très dangereux. Il y avait plus d'accidents. Du coup, pour que ça fasse un petit peu du bruit, le bruit qui est diffusé, c'est des slogans marketing. Voilà, donc il y a tout ça. Donc ça, c'est la partie où elle dit autour de l'industrie, mais elle parle aussi à un moment de... des collectivités et notamment de la RATP.
Je pense à ça, au tram et...
C'est ça, et de la RATP, et donc où ils vont utiliser des sons pour induire des comportements. En gros, ce qu'elle dit, c'est que les collectivités territoriales vont essayer de faire appel à des designers sonores pour aplanir les relations sociales dans les villes et masquer, en fait, les enjeux, voilà. Et elle donne des exemples aussi, où, par exemple, à nouveau, McDo va diffuser des gros tubes à l'intérieur, donc vraiment à destination des jeunes, tout ça. Mais à l'extérieur des McDo, devant les portes, il y a des sons de moustiques qui sont diffusés. Et en gros, ça fait que à l'intérieur, tu peux consommer, mais tu ne dois pas stationner. C'est consomme et barre-toi. Et comme Juliette Volclair est passée par Brest, on s'en rend compte. Il y a un truc que j'avais pas remarqué, moi. Donc, elle parle des trams qui vont chacun de son petit son et de leur nappe sonore. Et donc, ils font appel à des designers sonores. Et là, elle dit, bon, les tramways, ils vont chacun de leur particularité. Est-ce que vous aviez remarqué, dans les rames brestoises, le designer Michel Rodolfi fait annoncer les arrêts par une femme à marée haute et par un homme à marée basse.
Ouais.
Vous avez remarqué ça ?
Ah, mais si, ouais, c'est... Enfin, moi, je sais pas que je l'ai remarqué, c'est que je l'avais lu à la sortie, quand le tram avait débarqué. Et il y a aussi des sons différents à chaque station.
Ouais, ouais.
C'est, ils ont vraiment trippé sur le son, ouais. Mais la marée haute, marée basse, ouais, c'est... j'avais oublié, d'ailleurs.
Voilà, donc c'était juste... Enfin, moi, j'ai trouvé intéressant son article, parce que c'est comment il y a une tentative de... Enfin, c'est surtout ça, comment il y a la tentative de calmer dans les espaces. Il y a des bancs, par exemple, il y a des villes où quand tu t'assois sur des bancs, ça vient te susurrer des histoires d'amour, mais tout doucement. Et alors, il y a à la fois ça, faire de l'espace public un espace complet, enfin, pas politique, quoi. Mais il y a aussi, avec le truc des moustiques devant le McDo, ou certains endroits où on diffuse du son spécifiquement pour des jeunes, et ben que du coup, sans le dire, on accepte des personnes dans certains lieux et on exclut de fait d'autres personnes dans certains lieux. Et c'est vachement intéressant.
Ouais, c'est étonnant. Il y avait un article que j'avais lu il y a un moment dans Jeff Clack, je crois que c'était le magazine autour de des jeux course à pied ou
ouais.
et qui parlait de casino et de
à c'était l'intérieur cheval de
des cheval de course, ouais, c'est ça, et tout comment c'est travaillé de manière à nous faire entrer dans une sorte de transe qui fait qu'on oublie le temps, on oublie l'espace et puis ben, on dépense. C'était pas mal aussi, c'était intéressant.
Ouais, bah elle a un autre livre, mais je vais oublier, alors je vais chercher tout de suite. Juliette Volclair, où elle parle d'un créateur sonore, l'un des inventeurs de la création sonore, appliqué à... il a d'abord bossé dans le théâtre, puis il a bossé pour la guerre, et à la toute fin de sa carrière, il a bossé pour les supermarchés. Et évidemment, je ne vais pas retrouver le titre du livre, mais c'est, enfin, vous cherchez Juliette Volclair et vous trouverez.
On va terminer cette petite partie en écoutant une petite musique aussi qu'on entend. Je sais pas, je le décris pas. C'est encore David Murgia, un comédien belge qui interprète, je crois, un texte encore de Ascanio, un auteur italien dont j'ai déjà parlé ici. Et on va l'écouter.
Tu veux qu'on reprenne l'antenne après ou j'envoie la musique tout de
suite
après ?
On peut envoyer la musique et on se retrouve pour la deuxième partie.
Ça marche, c'est parti.
Mesdames et messieurs, très honorés membres de l'Assemblée, je suis un humaniste, comme vous, comme nous tous ici. Je suis pour le juste milieu. Et les règles du jeu du juste milieu sont simples. Quand il y a de la musique, tu danses, à la queue leu leu. Quand elle s'arrête, tu la fermes, tu cours et tu poses rapidement ton cul sur une chaise, la première qui passe, en or, en marbre, en osier. Attention, il y a toujours une chaise en moins, c'est ça le jeu. Et c'est le grand DJ qui décide quand il arrête la musique, c'est ça le jeu. Si tu n'as pas de chaise quand la musique s'arrête, tu es éliminé. Tu te mets sur le côté, tu t'assieds par terre et tu regardes les derniers danser entre eux. Si tu veux pas t'asseoir par terre, sors, meurs, sois banni. Tout ce qu'on te demande, c'est d'apprendre à danser de gauche à droite, à la queue leu leu. Et puis de droite à gauche, à la queue leu leu. Et puis, changer, jouer le jeu. C'est comme ça qu'on dit, la grande chaise musicale, un bal mondial. On y joue partout, on n'a rien trouvé de mieux. On est des humanistes, on cherche le juste milieu. Et pour le moment, il est à droite. Si tu n'es pas content, vote pour un autre DJ ou invente un autre jeu. Mais surtout, respecte le silence quand la musique s'arrête. Tu sais, on a joué à plein d'autres jeux par le passé. Et celui-ci, c'est vraiment celui qui ramène le plus de monde. C'est celui qui marche le mieux, c'est le meilleur. Profite tant que c'est encore possible. Profite tant qu'il y a de la musique. Profite tant qu'il y a des chaises disponibles. Ne perturbe pas la grande chaise musicale. C'est un jeu, le meilleur qu'on ait trouvé. Un jeu humaniste, le jeu du juste milieu, qui pour le moment est à droite. Un conseil. Ferme ta gueule et écoute la musique.
Take these rings, stole. feeling like a hammer.